Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne journée en ce mercredi 25 septembre de l'an de grâce 2024 après Jésus-Christ, jour de la sortie de mon livre. C'est ce soir qu'on fait le lancement. Normalement, vous pouvez l'avoir dans votre librairie à partir d'aujourd'hui. Un pull, tu as froid? Ouais, mais moi je suis un grand frileux, moi. Je suis un grand frileux et j'ai la chance de vivre dans probablement un des derniers appartements de France à avoir du simple vitrage. Autant vous dire que je me les pèle quand il fait froid et que je meurs de chaud quand il fait chaud. C'est également les 18 ans de ma nièce. Félicitations. C'est un très bel âge. Elle va pouvoir voter au municipal. Ou à la prochaine dissolution. C'est cool ça, ton premier vote, c'est après une dissolution. C'est où le lancement? On fait le lancement dans une librairie du 20e arrondissement à Paris, qui s'appelle Le Merle Moqueur, qui se trouve au 51 rue de Bagnolet. Et c'est à 19h30. Voilà. Si vous voulez venir, venez, ça va être cool. Mon premier vote, c'était aux européennes. C'est bien aussi, voter aux européennes. Retransmis sur Twitch? Non, pas retransmis sur Twitch le lancement. On a hésité, mais non. L'event de ce soir est ouvert à tous? Ouais, c'est ouvert à tous. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Faut chier que des gens soient coincés sur le trottoir. Premier vote présidentiel 2017. C'est cool ça. Premier vote présidentiel. Moi, mon premier vote aussi, c'était une présidentielle, c'est 2007. Mon premier vote.2007 aussi. Ah, il y en a d'autres comme moi. Ouais, 2007, présidentielle législative. On se souvient très bien. D'ailleurs, là, cet après-midi, j'ai regardé un docu de. Laurent Delahousse. Vous savez Laurent Delahousse qui présente le JT? Eh ben, il y a plein de gens, ils savent pas, mais en fait Laurent Delahousse, il fait des docus. Il en a fait plein, des vachement bien, notamment sur la politique. Alors je sais pas dans quelle mesure c'est lui qui les produit, ou c'est lui qui les réalise, ou machin, en tout cas il les présente. Et donc j'ai regardé un documentaire vachement bien sur l'histoire du Parti Socialiste entre 1996, donc ça commence à la mort de Mitterrand, et ça se termine en 2012 avec la victoire de Hollande. Et c'était vachement bien. C'était cool. Et là, je suis en train de regarder un autre docu, du coup, toujours de Laurent Delahousse, sur les destins croisés de François Hollande et Nicolas Sarkozy. Mais c'est bon, je l'ai déjà dit par le passé, hein, c'est pas le genre de docu qui m'excite parce que ça parle beaucoup d'ambition personnelle. Ils vont chercher dans l'enfance les marques d'une volonté de devenir président de la République un jour. L'appel du pouvoir et tout, et moi ça m'a toujours un peu gonflé côté psychologique. C'est pas les enfants terribles de la gauche. Si, le nom du documentaire sur le PS, ça s'appelle Les enfants terribles de la gauche. Et vraiment, je l'ai trouvé bien. Bah, j'ai pas appris grand-chose, mais ça remémore des souvenirs, c'est marrant. Donc ouais. Les enfants terribles de la gauche, si ça vous intéresse, c'est pas un mauvais documentaire, c'est assez intéressant. Puis surtout, il y a plein de gens qui interviennent, c'est assez intéressant. Tu retrouves Manuel Valls, tu retrouves Montebourg, tu retrouves Mélenchon, tu retrouves Malek Bouty, Julien Drey, Moscovici, Ségolène Royal. Non, franchement, Delahousse, il arrive à avoir des restats hein, dans ses docus, c'est cool, bravo. Des éléphants du PS? Ah, pas tous, justement, bah non, il y a Ségolène Royal. Et justement, le documentaire raconte très bien comment les éléphants du PS ont tout fait pour barrer la route à Ségolène Royal. Jusqu'à magouiller le congrès du PS de Reims en 2008 pour faire élire Martine Aubry. On peut regarder ça où? C'est sur YouTube. C'est une de ces chaînes YouTube de connards qui diffusent des documentaires sans avoir le droit de le faire. On en profite, sans cautionner. Clem, il est dégoûté parce que t'as pas dédicacé son livre. Quoi? Ah, on lui a... Ah, putain! Clément Viktorovitch, alors c'est de sa faute, vous lui direz c'est de sa faute. Parce qu'il m'a donné son adresse tardivement. Et du coup, il n'a pas fait partie de la vague des premiers envois. Du coup, il a... Ouais. Non, mais je lui dédicacerai, évidemment, bien sûr. Je suis désolé. Faites-lui des bisous. Faites-lui des bisous. Trop tard. Ah, ça y est, il est fâché. Ah, on est en froid, ça y est, on est en froid avec Clément. Ah merde. Le drama de la rentrée, ça commence. Non, mais attends, mais...
Attends, je suis un mauvais vendeur. Bon, juste... Ah merde. Bah c'est parfait, tu l'as dit. Alors ça c'est l'éditeur. Ça c'est l'éditeur. Ça c'est l'éditeur. Moi je vais pas critiquer les bandeaux. Je vais pas critiquer les bandeaux. Je sais que c'est l'éditeur. Et je sais que des fois tu fais un... Je sais que des fois tu fais... T'as envoyé ton adresse trop tard. Ah non. Alors non. Je lui ai répondu le jour où il me l'a demandé. Je déteste les bandeaux. J'en s'excuse en vrai. Ah,
Voilà, je lui fais une dédicace dans le chat.
Les bandeaux, c'est terrible parce que t'as pas la main dessus. Hein. Ah, il est là! Cher Clément, voici un livre qui, je l'espère, te plaira et que tu retrouveras des combats communs, amitié. Voilà, ah bah merci. Ça, c'est bon. Bon, Jean, il faudra que tu nous expliques. Il faudra que tu nous expliques. Parce que moi, je veux l'anecdote derrière cette photo. Je veux l'anecdote derrière cette photo. Je veux comprendre pourquoi est-ce que Jean Massier... que j'ai vu présenter en pull, voire en t-shirt, des backseats avec des invités politiques de premier plan. Je veux savoir pourquoi Jean Massier porte une veste. Je crois que j'étais, je crois pas t'avoir vu en veste déjà. Je ne crois pas t'avoir vu en veste déjà.
Jamais.
Je veux savoir pour... il y a un filtre. Je veux savoir pourquoi il y a un filtre veste sur Jean Massier, sur le bandeau. Ça, je veux l'histoire derrière cette photo. Je crains de la connaître.
Oui, effectivement, c'est terrible. On a fait une séance photo chez un photographe. Et quand je dis que c'était chez un photographe, c'était littéralement chez un photographe. Et son studio photo, c'est la chambre de son fils. Il y avait des jouets partout et tout. Et puis, nous, on était, bah, voilà, on faisait des photos. T'étais pas en veste au débat du siècle? Si, absolument. Comment la gauche peut-elle gagner en 2027? Ou avant, s'il y a avant? Mon postulat, la gauche ne peut pas gagner que si elle a un candidat unique dès le début. Mon idée, que la gauche propose un nom unique pour président avec une équipe gouvernementale plurielle directement pour faire adhérer tout le monde. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi, comment la gauche peut-elle gagner en 2027? Il suffit que la gauche ait plus de bulletins dans les urnes que les autres candidats. Voilà. Et 2027, tu prends cette date parce que c'est la date de l'élection présidentielle. Or, sur une élection présidentielle, c'est sur la personne d'un candidat ou d'une candidate que se fait le vote. L'idée que toute la gauche se réunisse avant 2027 est fort peu probable, puisqu'il y a un certain nombre de partis politiques à gauche qui souhaitent maintenir une ligne autonome, c'est-à-dire avoir leur propre candidature à l'élection présidentielle. C'est le cas du PCF, c'est le cas de la France Insoumise. C'est probablement le cas de Place Publique. Et le PS, ça dépend du vent. Voilà. À ma connaissance, les écolos, c'est les seuls qui sont chauds pour pas forcément avoir de candidat. En tout cas, par le passé, ils l'ont déjà fait. Place publique, tu sens la candidature de Glucksmann? Oui, clairement. Moi, je pense que Raphaël Glucksmann souhaite être président, oui, certainement, mais surtout candidat à la prochaine présidentielle, ça je le pense. Ouais, Raphaël Glucksmann, il va vouloir faire ça. Est-ce que tu peux nous lire le troisième mot de la page 49 de ton livre, s'il te plaît? Ça, je l'ai déjà fait. Regarde mon dernier best-of sur ma chaîne YouTube. LFI a quand même retiré ses potentiels ministres. Oui, LFI a retiré ses potentiels ministres, qui est une manière habile aussi pour LFI de se préserver et de ne pas être, pas être entaché du bilan d'un hypothétique gouvernement Castex. Donc de se présenter à nouveau en alternance ou en alternative en 2027. Tu penses vraiment que le barrage républicain est mort pour les prochaines élections vu les tensions à gauche et au centre? Non. Je pense que c'est indépendant de ça. Je pense que le barrage républicain, il appartient aux électeurs, pas aux formations politiques. Et c'est les électeurs qui feront des choix dans leur bureau de vote de faire barrage ou pas. La question que tu poses, c'est plutôt celle des désistements. Est-ce qu'il y aura toujours des désistements? Et ça, c'est une bonne question. Ça dépendra des partis, ça dépendra des formations, ça dépendra du risque réel ou supposé d'arriver de l'extrême droite au pouvoir. Je viens te voir demain à Strasbourg, ça va consister en quoi? Demain à Strasbourg, ça va consister en une conférence probablement, ou une table ronde, je ne sais pas encore, où je vais parler de mon livre, présenter mon livre et répondre aux questions du public. Et je ferai des dédicaces et le livre sera en vente sur place. Le gouvernement Barnier va-t-il tenir selon toi? Le RN ne va-t-il pas à un moment imposer des revendications que le gouvernement ne pourra pas suivre? Si, c'est exactement ce que tu dis est très juste. À un moment, le RN demandera des orientations que le gouvernement ne peut pas suivre et ça servira de prétexte à Marine Le Pen pour voter la censure. Et si la censure est adoptée, alors Michel Barnier sera contraint de démissionner et là, le président de la République aura l'obligation soit de nommer un nouveau gouvernement, soit de prononcer une nouvelle dissolution. Ça reprend quand les QAG? À ma connaissance, ça reprend le 2 octobre. 1er octobre, c'est le discours de politique générale et le 2 octobre, c'est les QAG. Il ne peut plus dissoudre, il y a un temps d'un an. Oui, absolument. Il y a une limite fixée par la Constitution qui dit qu'on ne peut pas faire de nouvelles élections législatives dans l'année qui suit les précédentes. Donc il y a un an de cooldown. Et donc Marine Le Pen va attendre le mois de mai prochain, à mon avis, pour sortir du bois. Elle a d'ores et déjà annoncé que c'était a priori son souhait. Bon, évidemment, elle a des précautions langagières où elle explique qu'elle attend d'abord de voir ce que va donner ce gouvernement Barnier, est-ce qu'il faut le censurer ou pas, etc. Bref, on verra bien. J'ai une question concernant le Conseil d'État. N'y a-t-il pas un problème de séparation des pouvoirs dans le fait que les juristes qui conseillent les ministres et ministères puissent être amenés à les juger en tant que plus haute cour de l'ordre administratif? Non, mais le jugement porte pas forcément sur les actes des ministres, mais il porte sur l'application du droit, sur les décisions qui ont été prises par les cours administratives d'appel. Est-ce qu'il faut attendre beaucoup du discours de Macron à l'ONU aujourd'hui? Bah, disons que les dossiers internationaux sont nombreux, on pense notamment au Proche-Orient avec l'invasion de Gaza et la guerre, semble-t-il, déclarée par Israël contre le Liban, contre le Hezbollah pour être plus précis. Quelle va être la position de la France et de la diplomatie française? Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron va annoncer la reconnaissance de l'État de Palestine. Il a déjà dit qu'il ne le ferait pas, donc il n'y a pas de raison qu'il le fasse maintenant. Est-ce que l'Europe va prendre le leadership d'une initiative pour mettre tout le monde autour de la table? On verra. De toutes les manières, cet AG des Nations Unies, tout le monde est suspendu à l'élection aux États-Unis. Hein. C'est surtout ça qui va déterminer la suite de l'histoire. C'est quoi le Hezbollah? Hezbollah, c'est une milice chiite proche de l'Iran qui se trouve au Liban et qui est opposée à Israël depuis toujours. Tu penses quoi des hommes de l'ombre que les politiques les plus haut placés ont, alors que ces personnes n'ont jamais été élues et ont beaucoup de pouvoir dans leurs mains? Alors, ça a été mon métier par le passé. Collaborateurs de cabinet. Et les hommes et les femmes de l'ombre, on les appelle comme ça, non pas parce qu'ils magouillent dans le secret, on les appelle comme ça parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas la lumière sur eux, en fait. C'est le ministre ou le président qui a de la lumière sur lui. Et on s'en fout de savoir par qui il est accompagné ou conseillé. Ce qui compte, c'est les actes qui sont pris par le responsable politique et sur lequel il est comptable. C'est quoi la différence entre le Hezbollah et le Hamas? Le Hezbollah, c'est au Liban, le Hamas, c'est en Palestine et à Gaza. Surtout à Gaza. Gaza, c'est la Palestine. Non, Gaza, c'est pas la Palestine, c'est une partie de la Palestine. Il y a aussi la Cisjordanie, il y a le plateau du Golan aussi. Est-ce que tu penses à un article 16 prochainement pour Macron? Non. Non. Pas besoin d'utiliser l'article 16. L'article 16, c'est l'article des pouvoirs exceptionnels et c'est un article qui n'est déclenché que dans des circonstances gravissimes de l'ordre de la guerre. De la guerre civile, de la guerre machin. Là, en ce moment, on a des, comment dire, on a une instabilité parlementaire. C'est pas une situation d'urgence, hein. Un pays instable, ça nécessite pas un truc urgent. Donc, l'article 16, la dernière fois en 1962. Bah oui, c'est ça, l'article 16, il a été utilisé à un moment où la France était en guerre civile, notamment en Algérie, et où des généraux se sont rebellés contre le président de la République quand même. Enfin, on était dans un niveau d'urgence, il y avait quand même des mecs avec des chars d'assaut et des bombardiers, hein. Bon, voilà. L'article 16 n'est pas une solution à une crise institutionnelle. Donc non, 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 non. Article 16, j'y crois pas du tout. Au demeurant, il n'y a pas de dysfonctionnement institutionnel actuellement. Alors, si, du point de vue d'une partie de la gauche, il y a un dysfonctionnement du côté de l'Élysée qui a choisi de faire confiance à Michel Barnier au lieu de Lucie Castet, mais d'un point de vue purement institutionnel, les institutions fonctionnent. Le gouvernement gouverne, l'Assemblée se réunit, elle travaille. Le fait est qu'elle est instable politiquement, mais ça, c'est pas un dysfonctionnement. Qui sera l'héritière ou l'héritier de Macron pour 2027 selon toi? Bah, c'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question sur l'héritage politique d'Emmanuel Macron, qui va le porter au nom d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire savoir une préférence? Je suis pas sûr. Il va peut-être rien dire. Peut-être qu'il va rien dire. va garder le silence, il va dire, ça ne me regarde pas. Je laisse les concurrents se concurrencer. Pour l'instant, de personnalité déclarée, il n'y a que Édouard Philippe, avec qui les relations sont délétères. Donc il y a peu de chances que Édouard Philippe reçoive l'assentiment d'Emmanuel Macron. On prête des ambitions à Gabriel Attal, et Gabriel Attal, pareil, il a très mauvaise relation avec Emmanuel Macron depuis juin dernier. Est-ce que le macronisme peut survivre à ce quinquennat ? Bah, le macronisme, en tant que doctrine politique, il est d'ores et déjà terminé. C'est fini. Il y a plus maintenant, c'est Barnier qui a pris le pouvoir et le macronisme aura duré 7 ans. Le problème du macronisme, c'est comme son nom l'indique, il est attaché à une personne, Emmanuel Macron. C'est comme le gaullisme. Alors, est-ce qu'il va rester des traces du macronisme dans la vie politique française ? Bien sûr, après le départ d'Emmanuel Macron, oui, bien sûr, il va en rester. Comme il est resté des traces du giscardisme pendant des décennies. Jusqu'à la création de l'UMP, l'UDF participait à des majorités avec la droite. Donc le macronisme, à mon avis, ne va pas disparaître. Qu'est-ce qui permet ce supposé dysfonctionnement ? D'où vient cette permission ? Qu'est-ce qui, de base, permet cet irrespect électoral ? Je parle d'un point de vue purement constitutionnel, cette situation n'a jamais été pensée au moment de la création. Bah, non, mais en fait, on en revient à la discussion qu'on a depuis 2 mois, c'est-à-dire que la gauche prétend avoir gagné les élections législatives et réclame le pouvoir. La gauche est en position de le réclamer, le pouvoir. La gauche est en position de force. Mais la gauche n'a pas les moyens à elle toute seule de gouverner. Elle a besoin pour ça de l'appui du camp macroniste, donc d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron n'est pas hors-jeu. Emmanuel Macron a son mot à dire. Emmanuel Macron a dit son mot, puisqu'il a préféré faire alliance avec les Républicains sous la coupe du RN. Ce que les institutions lui permettent tout à fait de faire. Ce n'est pas un irrespect des urnes. Si vous voulez regarder la réalité du pouvoir de Michel Barnier, regardez ce qui va se passer le 1er et le 2 octobre prochain, voir s'il va écoper d'une motion de censure. Dans une chambre qui compte 577 députés, une motion de censure qui n'est votée que par 200 députés prouve que Michel Barnier a la légitimité pour gouverner. Alors, ça va être serré, ça va être difficile, parce que la réalité de ses propres soutiens, c'est qu'ils ne sont que 220, 230 à tout péter, ce qui ne fait pas 289, donc il va avoir besoin de trouver des majorités plus larges, fussent-elles RN ou NFP. Et si on virait tous les députés et qu'on prenait le pouvoir ? Ouais, ça existe, ça s'appelle un coup d'État. Ça s'appelle un coup d'État et c'est un truc que les militaires font en général dans les pays pour installer des gouvernements d'extrême droite. Donc, je t'invite à adhérer au RN puisque ça a l'air d'être ta soupe. Est-ce que tu penses que Barnier va demander un vote de confiance ou alors attendre la motion de censure ? Non, Michel Barnier ne va pas demander la confiance puisqu'il n'y est pas obligé par la Constitution. Il va attendre calmement qu'une motion de censure soit déposée par les socialistes et qu'elle ne soit votée que par 200 personnes. Et qu'est-ce qui va se passer le lendemain de la motion de censure ? Quand la motion de censure aura échoué, qu'est-ce qu'il va dire Michel Barnier aux journalistes ? Il va leur dire, bah voilà, je suis légitime. Je suis même plus légitime qu'Elisabeth Borne. C'est fou ça. Voilà. Donc la Révolution française est d'extrême droite. Non, la Révolution française n'est pas d'extrême droite. Je t'invite à lire un livre d'histoire qui t'expliquera que les révolutionnaires en 1789 ont fait la Révolution pour installer des parlementaires élus et pas pour les dégager. Toute la différence est là. Pourquoi plus que Borne? De mémoire, Elisabeth Borne, elle avait eu une motion de censure qui avait été votée par 230 députés. Alors, elle était même montée jusqu'à 281, ça on s'en souvient, c'était au moment de la réforme des retraites. Mais la toute première motion de censure d'Elisabeth Borne, je sais plus combien elle avait eu de. Je sais que que LR l'avait pas voté, et Liot non plus, je crois. Est-ce que le bilan de la présidence de Macron risque pas d'être résumé à un marchepied à l'extrême droite au pouvoir? Tu présumes de la victoire de l'extrême droite en 2027? Moi, j'en sais rien. On verra. Est-ce que tu crois à Macron candidat en 2032? Ouais, c'est possible. C'est possible. Emmanuel Macron est quelqu'un d'assez jeune, hein, en âge. On parle d'un président qui a fait deux mandats successifs. Et qui en sort pas très âgé, hein. À la différence de François Mitterrand et Jacques Chirac, qui tous les deux ont quitté le pouvoir, bon, c'était sûr que c'était fini. Ils n'allaient pas. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, alors lui, il n'a fait qu'un seul mandat, et il a essayé de revenir après. Il n'a pas réussi parce qu'il a perdu la primaire des Républicains, mais voilà. Donc c'est tout à fait possible que Emmanuel Macron reste un visage important du paysage politique français dans les décennies qui viennent. Tout à fait. Et Hollande, alors François Hollande n'est pas encore revenu. François Hollande est pour l'instant un simple député. Il n'a pas repris la direction du Parti socialiste, il n'a pas d'ambition présidentielle affichée, donc bon, on verra. Peut-être que François Hollande, lui aussi, en 2032, voudra faire son retour. C'est possible. La vie politique française nous a habitués aux personnes qui s'accrochent et qui tentent de revenir, aux personnes âgées. On en a vu des Fabius. Candidat à la primaire de socialiste en 2007. On en a vu des Alain Juppé, candidat à la primaire de 2016. Giscard est pas vraiment, a pas vraiment essayé de reprendre l'Élysée. Giscard, il a été député après son mandat de président. Il a été président de région, Auvergne-Rhône-Alpes. Comment ça va se passer à l'Assemblée nationale quand Hollande posera une question? On l'appellera comment, Monsieur le Président? Et qui lui répond? Effectivement, tu as raison, il est d'usage, dans le protocole, il est d'usage d'appeler une personne par son titre le plus haut qu'elle a obtenu au cours de sa vie. Je me souviens par exemple de Bernard Accoyer, qui avait été président de l'Assemblée nationale, qui ensuite est redevenu simple député à l'Assemblée nationale, quand on lui donnait la parole, on disait la parole est au président Accoyer. C'est une marque de reconnaissance. Voilà, il a été président, on continue à l'appeler monsieur le président. Les anciens présidents de la République continuent à se faire appeler monsieur le président protocolairement. Et donc François Hollande, quand il aura la parole dans l'hémicycle, je suppose que le président de séance dira la parole est au président Hollande. Voilà. Mais c'est juste une marque de distinction, c'est pas un pouvoir qu'il a particulièrement, quoi. C'est pareil dans l'armée, hein. Un général à la retraite, on continue à l'appeler mon général. Les militaires continuent à dire mon général. Voilà, c'est une marque de distinction parce qu'il a été général, il est monté jusqu'à général. Pareil pour un colonel, pareil pour un capitaine. Donc voilà. Sauf un maréchal. Ah si, si, un maréchal de France, on continue à l'appeler monsieur le maréchal. Bon, le dernier maréchal qu'on a eu, c'était pas le plus glorieux, donc on a un peu laissé tomber. Ah, attends, c'est pas vrai ce que je dis, parce qu'il y en a eu d'autres, des maréchaux. Je sais que De Gaulle l'a refusé, il voulait pas le titre de maréchal, à cause de Pétain. Mais il y a eu le maréchal Juin, le maréchal Leclerc, le maréchal Joffre, le maréchal Delattre de Tassigny. Ça, j'ai un doute. Non, Joffre, c'était avant. Joffre, c'était la Première Guerre mondiale, on est d'accord. Joffre, c'était la... Et Foch aussi, je crois, c'est la Première Guerre mondiale. Maréchal Koenig, le dernier. Ok. Bon, de toute façon, on est d'accord, ils sont tous morts, hein, les maréchaux. Il y en a plus de vivants, des maréchaux de France. Donc vous aurez plus besoin de les appeler monsieur le maréchal. Ils se sont reconvertis en boulevard, exactement. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, effectivement, pas besoin de... Enfin, pas besoin, peu importe. François Hollande, on l'appellera probablement monsieur le président, par respect. Et qui lui répondra? Bah, le gouvernement décidera de qui répondra à François Hollande. Il n'est pas... L'usage à l'Assemblée nationale veut que le Premier ministre en personne réponde aux questions qui sont posées par les présidents de groupe. Mais le Premier ministre peut décider de son propre chef de répondre lui-même à des questions posées par d'autres personnes. Et s'il veut marquer le coup avec le président Hollande... Merci. Merci Clément Viktorovitch pour ton raid. Bienvenue les amis. Ceci est une FAQ politique. Je réponds à toutes vos questions si vous en avez. Sur la politique, son actualité, son fonctionnement, tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et profitez-en pour liker la chaîne évidemment, bien sûr. Ça devrait pas être le Premier ministre qui répond à toutes les questions. Non. Non, non. Alors, si tu as raison, pardon, excuse-moi, il y a eu une innovation qui a été faite en février dernier, février-mars, où il y a deux séances de questions au gouvernement par semaine à l'Assemblée. Il y en a une le mardi, une le mercredi. Et il avait été décidé que la séance du mercredi serait une séance réservée au Premier ministre, Gabriel Attal, qui allait répondre à toutes les questions. Alors, c'était pas toutes les questions, parce qu'en réalité, c'était une question par groupe, je crois, de mémoire. Mais ouais, ils avaient pris cette décision-là. Et là, pour cette rentrée politique, là, en ce mois de septembre, il a été décidé que il retournerait à deux séances de questions au gouvernement classiques. Une le mardi, une le mercredi. Donc voilà. Évidemment, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les séances de questions au gouvernement sont diffusées sur la chaîne Twitch de Jean Massier, dans le cadre d'un commentary proposé par ce dernier. Ah, regardez, je me suis racheté un truc aussi. C'est ce que je l'avais paumé, le mien. C'est la Constitution aux éditions Dalloz. Pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. 4 euros. Petit livre dans lequel vous avez vous avez une présentation par un professeur de droit, ça on s'en fout un peu, et vous avez l'intégralité des textes constitutionnels dans ce petit livre. Vous avez à la fois la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, vous avez le préambule de la Constitution de 46, vous avez la Charte de l'environnement de 2004 et vous avez le texte constitutionnel. Ça, c'est la DDHC. Ça, c'est le préambule de la Constitution de 46. Ça, c'est la Charte de l'environnement. Pardon, excusez-moi, je suis en train de passer les pages. Et ensuite, vous avez la Constitution qui commence avec tous ces articles, tous ces titres, tous ces machins, etc. Est-ce qu'il y a des textes additionnels? Ah ouais, il y a plein de petits textes. Sur la QPC, sur le schéma procédural d'une question prioritaire de constitutionnalité, du coup. Je me souviens quand j'étais étudiant en droit, c'était vraiment la fiche de révision, ce truc-là. Et comme j'avais paumé le mien, alors non, non seulement j'avais paumé le mien, mais surtout, regardez, j'ai acheté l'édition. Là, il y a une petite bulle là. Il y a une petite bulle qui dit « Liberté garantie aux femmes d'avoir recours à une IVG ». Donc ça, c'est la constitution mise à jour, avec la révision constitutionnelle du début d'année. Vous savez qu'on a changé la constitution là en début d'année, on a rajouté l'IVG. Et ben voilà, ça y est, c'est la version mise à jour. Alors, je me souviens plus dans quel article ils l'ont mis, par contre, l'IVG. Je sais plus. C'est l'article 34? Merci. Non, article 34, c'est le domaine de la loi. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, c'est dans le domaine de la loi qu'ils ont mis l'IVG? Ah ouais, t'as raison. C'est dans le domaine de la loi, d'accord. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Voilà, la phrase qui a été rajoutée. Et l'article 49.3. Le Premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou proposition de loi par session. C'est une par session seulement, hors loi budgétaire. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Je vois pas pourquoi il le ferait. Je suis même pas sûr qu'il y ait déjà eu un Premier ministre qui a fait ça. C'est vous dire à quel point on s'en branle. Bref, voilà, si ça vous amuse, hein, 4 euros sur Amazon. En droit, il faut savoir par cœur ces articles. Non. En droit, quand on fait des études de droit, on n'apprend pas par cœur la loi. Quand on fait des études de littérature, on n'apprend pas par cœur des livres. C'est pareil. En droit, on apprend à chercher dans un code de loi pour trouver une loi qui nous intéresse, un dispositif réglementaire qui nous intéresse, etc. Mais on n'apprend pas par cœur. Après, moi, comme j'ai fait des études de droit public avec un gros focus sur le droit constitutionnel, à la fin, je le connais. Enfin, la Constitution, je la connaissais pas par cœur au mot près, mais enfin, voilà, je savais. D'ailleurs, je me souviens avec mes potes de promo, avec mes copains de promo, notre jeu à boire dans les bars, c'était on lançait un article de la Constitution, un numéro d'article, et il fallait être capable de dire ce qu'il y avait dans l'article. Et si t'étais pas capable, tu buvais. Autant vous dire qu'on baisait pas beaucoup. Il n'y a jamais de meuf qui est venue s'installer à notre table dans les bars. Voilà, donc on jouait à ce jeu de merde. La soirée où tu veux pas être. Je vous garantis que c'était pas le genre de soirée où vous vouliez être. Hein. C'était un peu ridicule. Mais on faisait ça. Article 26 sur l'immunité parlementaire. Article 27 sur la prohibition des mandats impératifs. Article 28 sur la session ordinaire. Article 29 sur la session extraordinaire. À l'époque, je savais ça par cœur. Hein. Article 34, domaine de la loi. Article 37, domaine réglementaire. Article 49, responsabilité. Puis plus tu vas loin dans la Constitution, plus tu tombes sur les articles sur le défenseur des droits, sur la Nouvelle-Calédonie, sur... Il y a une prohibition des mandats impératifs, absolument. Il y a une prohibition absolue dans la Constitution française d'avoir des mandats impératifs. Les députés, les parlementaires, les élus locaux ont le droit, le pouvoir de rester libres de leurs décisions et de leurs votes. Ils ne peuvent pas être sous la coupe d'une obligation de la part de je ne sais qui, une entreprise, un État étranger, une association, une organisation et tout, c'est interdit. Tu devais pas faire une constitution simplifiée ? Si, absolument, je devais faire une constitution simplifiée. J'ai été un peu retardé par la maladie cette année, mais je vous propose qu'on se fasse ça tranquillement cet hiver, ça vous dit ? C'est vrai qu'on devait faire la constitution pour les nuls, ou genre on résume tous les articles. En super... vraiment, vraiment compréhensible. Salut Jean, j'ai essayé de comprendre le budget des dépenses. Il y a pas mal de trucs très flous, je trouve ça très grossier. Est-ce que tu sais où trouver un peu plus de détails? C'est une bonne question que tu poses. Je pourrais t'inciter à lire un manuel de finances publiques première année qui détaille un peu. Je pense que tu peux trouver des ressources en ligne, sinon sur le site internet du ministère du budget ou sur le site internet viepublique.fr, où en général tu as des ressources qui sont pas débiles, qui sont plutôt bien. Très didactique, très explicatif, etc. C'est comme sur le site internet de l'Assemblée nationale, ils ont des fiches synthèses sur des problématiques de droit constitutionnel qui sont assez bien écrites. C'est un peu chiant à lire, on va pas se mentir, hein. Ça reste du droit constitutionnel, mais ça répond à des questions intéressantes. Ça se fait en L1, les finances publiques? Je sais pas comment ça marche actuellement. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on faisait en L1, on avait un cours d'introduction à l'économie politique. Et c'est en L2 qu'on avait un vrai cours de finances publiques. C'est le souvenir que j'ai. Mais je sais pas, c'est peut-être une option, c'est peut-être... je sais pas. C'est toujours en L2? Ok, bon voilà, c'est toujours en L2 les finances publiques. Ouais, je me souviens, j'avais eu une très mauvaise note parce qu'il y avait une dissertation. Le sujet de la dissertation, c'était la loi de finances. Et comme un con, j'avais parlé de la loi de financement de la sécurité sociale dedans aussi. Raté. C'est l'échec. Et je m'étais tapé un 7 sur 20, un truc comme ça. C'était le piège. Est-ce que les ministres connaissent la Constitution? Oui, dans les grandes lignes. Après, ils sont entourés, les ministres, ils sont entourés par des gens qui sont là pour la connaître et leur dire... ça m'est... Enfin, je sais pas. Si un ministre en réunion de cabinet dit à son cabinet « Ai-je une idée ?» Si on faisait telle mesure... Et genre tout le monde se regarde en levant des yeux en disant « Mais il est sérieux le ministre là ?» C'est complètement contraire à la Constitution, c'est contraire aux droits de l'homme, c'est contraire à la démocratie. Enfin, c'est non, en fait, on va pas faire ça. on va même éviter l'humiliation de dire au Conseil d'État qu'on avait eu cette idée de merde. Ça va rester entre nous. Si on interdisait les manifs, ouais c'est ça. Si on interdisait les manifs, bah non. Comment te dire? Non. C'est pas, enfin, je veux dire, ça passera jamais, nulle part en fait, ni au Conseil constitue, ni au Parlement, ni dans les médias, ni nulle part. C'est une idée de merde. Viens, on fait pas ça. Faut-il nécessairement avoir fait du droit ou Sciences Po pour travailler dans le cabinet d'un élu? Absolument pas. Dans les cabinets dans lesquels j'ai travaillé, j'ai eu des collègues qui avaient fait plein de cursus différents. J'avais un très bon copain qui avait fait des études d'histoire, un autre qui était géographe, je m'en souviens, un autre qui avait fait des lettres modernes, un autre qui avait fait de l'immobilier. Au cabinet de la ministre de la Santé, il y avait des médecins qui avaient fait toute leur vie dans l'hôpital. Et moi, le barman, j'ai connu une barmaid qui est devenue collaboratrice parlementaire. Ouais. Elle n'était pas que barmaid. Oh, bravo le commentaire misogyne. C'est bien ça. Une femme peut pas obtenir un poste par son seul mérite. Il faut forcément qu'elle couche, c'est ça que tu dis. C'est bien ça, on aime bien ça, ces commentaires-là. Je suis dessinateur, ça peut marcher? Oui, tout peut marcher. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous devenez collaborateur, vous allez devoir apprendre en très peu de temps beaucoup de choses. Ben, c'est le boulot qui rentre, hein. Va falloir se former très rapidement à des procédures, à des procédures politiques, à des pouvoirs, responsabilités, etc. Je vous avais raconté que moi j'étais étudiant en droit, donc j'avais appris en droit, en cours de droit, j'avais appris les responsabilités des collectivités locales, le rôle de la préfecture, le juge administratif, etc. Tout ça, c'était des fiches de révision pour moi. Et puis quand j'ai commencé mon boulot, je me suis retrouvé, je crois, le deuxième jour, dans une réunion où je représentais la mairie. Et autour de la table, il y avait la préfecture de région, le ministère. Il y avait un nombre incalculable de personnes autour de la table. Et moi, j'étais en mode, ok, alors là, il va falloir que je me souvienne. Qui est responsable de quoi? Qui s'occupe de quoi? Qui a le pouvoir de faire quoi? Qui a du budget? Et là, d'un seul coup, mes fiches de révision sont devenues réelles, parce que là, j'avais des visages en face de moi. État géré? Oui, de mémoire, ça nous concernait assez peu. On était accessoires dans le process. Je sais plus exactement sur quoi on avait une discussion, mais... T'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 4 ans. Collaborateur de cabinet. Pourquoi il n'y a pas de restriction d'utilisation du 49.3 sur la loi de financement, sur les lois de finances, tu veux dire, et les lois de financement de la sécurité sociale? La raison à ça, c'est que c'est potentiellement un blocage extrêmement dangereux pour le Parlement. Pas pour le Parlement, pardon, mais pour le pays. On peut pas ne pas avoir de budget en fait, on peut pas ne pas payer les fonctionnaires, prélever l'impôt, etc. Donc il faut absolument faciliter la possibilité d'adopter un budget, même dans des conditions difficiles. En revanche, une autre loi, c'est moins gênant. Tu peux pas mettre un pays à genoux si il n'adopte pas une loi sur, je sais pas, l'immigration, l'école, la recherche, je sais pas quoi, ou le travail, etc. Par contre, tu peux mettre un pays à genoux si tu l'empêches d'avoir un budget. Pourquoi plus en France qu'aux USA? Ah, pas plus en France qu'aux USA. La France, comme les USA, ont besoin d'un budget pour fonctionner. Et les USA, par contre, eux, ils ont moins de procédures que nous qui permettent d'éviter le lockdown. C'est déjà arrivé dans l'histoire récente que les États-Unis se retrouvent dans une situation extrêmement gênante où il n'y a pas de budget. Et du coup, un certain nombre de fonctionnaires ne sont plus payés. Ce qu'on appelle le shutdown. Il se passe quoi quand les fonctionnaires sont plus payés? Ben, ils vont plus au travail. C'est aussi simple que ça. À quoi sert le ministère de la fonction publique? Casbarian actuellement, comme les fonctionnaires ont leur propre ministère. Alors, le ministère de la fonction publique est un ministère qui s'intéresse au travail des fonctionnaires, à leur statut, à leur mission, à leur grille de rémunération, à la transformation des méthodes de travail. C'est un peu la direction des ressources humaines, si tu veux, de l'État. Un ministère très important, le ministère de la fonction publique. C'est lui qui mène les négociations avec les syndicats, c'est lui qui... En général, c'est lui qui est chargé aussi de ce qu'on appelle la transformation de l'action publique. Donc voilà. Alors que quand le gouvernement est démissionnaire, il continue d'être payé. Mais c'est parce qu'il n'arrête pas de travailler, hein. Gouvernement démissionnaire, il est toujours un gouvernement. Pourquoi Barnier a proposé d'augmenter les impôts alors qu'il sait que la droite déteste ça? J'ai pas entendu la mesure complète. Non, non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, Michel Barnier a parfaitement conscience qu'il se dirige vers un budget extrêmement compliqué à créer, à monter, déjà d'un point de vue d'équilibre politique à l'Assemblée nationale. Mais d'autre part, il sait que. Il sait aussi qu'il a besoin de faire rentrer des ressources pour équilibrer le budget. Parce que là, on est dans un dérapage budgétaire assez vénère en France. Donc il a besoin de trouver des ressources supplémentaires et donc il a émis l'hypothèse de taxer les riches. C'est pas la droite qui est la plus opposée à ça. Hein. La droite n'est pas opposée au fait de taxer les riches. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend pourquoi c'est fait, mais ils l'ont déjà fait par le passé. C'est plutôt les macronistes qui sont opposés à ça. Donc on verra s'il trouve des négociations, est-ce qu'il va recréer un ISF, est-ce qu'il va créer des tranches supplémentaires d'imposition sur l'impôt sur le revenu, est-ce qu'il va toucher aux successions? C'est toutes ces questions-là en fait qui sont posées. Est-ce que ça paraît envisageable que le système de sécurité sociale soit utilisé dans d'autres secteurs que la santé? Bah, c'est déjà le cas. L'assurance chômage, l'assurance vieillesse, l'assurance accident du travail et la dépendance. Nouvelle branche de la Sécu. Pourquoi les gens disent que ce nouveau gouvernement est antidémocratique alors qu'il est pour le moment pas censuré? Les gens ne comprennent pas la majorité parlementaire. Non, 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 c'est qu'il y a des personnes qui. En fait, c'est. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'interprétation des résultats des élections législatives. La gauche revendique la victoire puisqu'elle est arrivée en tête, si on compte les coalitions, parce qu'elle est arrivée en tête des élections législatives. C'est pour ça qu'elle estime antidémocratique le fait d'avoir choisi un autre Premier ministre que celui proposé par la gauche. Celle proposée par la gauche. Mais je suis d'accord avec toi, on aura la réponse à la question quand il y aura une motion de censure qui sera déposée. Si la gauche a effectivement remporté ces élections législatives, alors elle n'aura aucune difficulté à faire adopter une motion de censure. Depuis quand on compte les coalitions? On a toujours compté les coalitions. Le macronisme est une coalition. T'as Ensemble, t'as le Modem et t'as Horizon. Voilà. Il y a une différence entre gagner et être majoritaire absolument. Absolument, tu as raison. L'interprétation des résultats d'une élection législative n'est pas toujours évidente. Elle l'a été pendant 70 ans, elle l'est plus aujourd'hui. Seules les coalitions pré-élections comptent pour le résultat. Non, absolument pas. Ce qui compte, c'est la Chambre. Ce qui compte, c'est l'Assemblée nationale. Ce qui compte, c'est ce que font les députés une fois qu'ils sont dans la Chambre. On s'en fout de savoir s'ils ont fait coalition avant ou après les élections. C'est le nombre de députés qui siègent et c'est le nombre de députés qui votent ou qui ne votent pas. Donc, c'est ce que je vous ai déjà dit de manière un peu cynique. La gauche a 200 députés, la droite en a 350. Allez me dire que la gauche a gagné. Je suis désolé, hein. C'est une mauvaise nouvelle. Mais à partir du moment où les autres groupes se mettent ensemble, même indirectement, ils obtiennent une majorité de fait. Donc, il ne s'agit pas de regarder qui a gagné ou qui a perdu les scores le soir des élections, il s'agit de regarder ce qui va se passer dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, il va y avoir une motion de censure déposée par la gauche qui va être votée par 200 députés. Il va y avoir plus de 350 députés qui vont s'abstenir de voter la censure au gouvernement. Le gouvernement a donc sa légitimité pour gouverner. C'est une légitimité plus faible que s'il avait un vote de confiance, c'est vrai. C'est une légitimité plus difficile à maintenir pour le gouvernement qui doit contenter Marine Le Pen, et ça a déjà commencé, on en a parlé hier. Donc finalement, c'est normal ce qu'il se passe. C'est conforme au fonctionnement d'une institution comme l'Assemblée nationale. Oui, il n'y a pas de dysfonctionnement à l'Assemblée nationale. Mais ce que je dis ne veut pas dire que la gauche doit accepter son sort et ne rien dire. Puisque ce que je dis aussi, c'est que la gauche, avec 200 députés, est en position de force. C'est vrai, ça. La gauche est en position de force. La gauche est en droit de réclamer de participer à la discussion. Elle est en droit de réclamer d'avoir une première ministre. C'est pas exorbitant. C'est pas faux. Elle n'est pas la seule à avoir ce droit-là, mais elle en a le droit. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser en vainqueur et perdant d'une élection. La notion de victoire et de défaite à une élection a beaucoup de sens quand on fait une élection au scrutin majoritaire. Par exemple, une présidentielle. Il y a un gagnant ou une gagnante, c'est sûr. C'est pas compliqué, il a plus de bulletins. Il a la majorité absolue des suffrages. Mais par contre, c'est plus difficile de parler de victoire, parfois, quand on a une assemblée morcelée. C'est pour ça que j'utilise des mots différents, comme position de force, position de faiblesse, position de soutien indirect. Quand personne n'a de majorité absolue, il faut regarder différemment les choses. Et en l'occurrence, vous avez trois tiers dans cette assemblée, vous avez un tiers gauche, un tiers centre, un tiers extrême droite. Il suffit que deux tiers se mettent d'accord d'une manière ou d'une autre pour ne pas censurer un gouvernement, et voilà, vous avez un gouvernement. Et aujourd'hui, ceux qui se sont mis d'accord pour ne pas censurer un gouvernement, c'est les macronistes et le RN. Qui ne gouvernent pas main dans la main, dans le sens où ils n'ont pas fait coalition. Le RN n'est pas représenté au gouvernement, mais le RN a annoncé qu'ils étaient OK pour ne pas censurer. Ça durera le temps que ça durera. Et Marine Le Pen a dans sa manche une carte non négligeable, c'est la possibilité de voter la censure. Est-ce que le Nouveau Front Populaire est le seul groupe d'opposition ? Ça, c'est une très bonne question que tu poses. Et je suis complètement d'accord avec toi, moi c'est une question qui va m'intéresser dans les prochains mois. Qu'est-ce qui va apparaître de cette chambre ? Qu'est-ce qui va apparaître de cette Assemblée nationale ? Est-ce que Marine Le Pen va réussir à maintenir l'apparence d'une opposition au gouvernement ? Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un double discours de Marine Le Pen. Je pense que Marine Le Pen, elle va taper fort sur le gouvernement Barnier. Dans toutes ses interviews, dans toutes ses prises de parole dans l'hémicycle, etc. Elle va taper, elle va bruyamment dire aux Français « Je suis Marine Le Pen, je suis l'alternative à ce monde dégueulasse, etc. Votez pour moi en 2027, etc. » Par contre, dans les urnes de l'Assemblée nationale, à mon avis, le RN, il va être assez conciliant. Ils vont pas censurer. Ils vont peut-être même voter 2-3 trucs, si ça leur convienne. Ils vont pas être vraiment d'opposition. Et ça, il n'y a que vous et moi qui allons le voir. Le grand public, il ne s'intéresse pas au quotidien du vote des députés. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette assemblée-là, où vous avez de fait une connivence, de fait, entre les macronistes et le RN, c'est qui l'opposition ? C'est la gauche. Le NFP va apparaître, je pense, aux yeux de beaucoup de Français, comme la seule vraie opposition au gouvernement Barnier. Le Pen étant mouillé indirectement dedans. C'est pour ça que Marine Le Pen va essayer de jouer l'opposante sur les plateaux télé. Pour essayer de dire non, elle veut pas laisser au NFP la primeur de l'opposition. De, non, je suis une opposante, moi Michel Barnier, je suis pas d'accord, etc. Machin. C'est ça qu'on va suivre dans les prochains mois sur cette chaîne. On va essayer de voir est-ce que dans l'hémicycle, on va revoir l'émergence d'un clivage gauche-droite très net, ou est-ce que Marine Le Pen va réussir à tirer ses marrons du feu. Marine Le Pen, historiquement, elle n'est pas très bonne à l'Assemblée nationale. Hein. C'est pas son groupe, etc. C'est pas des gens... c'est pas des grands parlementaires. Déjà, il n'y a pas vraiment une grande culture parlementariste à l'extrême droite, on va pas se mentir. Mais en plus de ça, il brille pas beaucoup. Mais pour les électeurs, est-ce que ça compte ? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que les électeurs du RN en ont quoi que ce soit à foutre de ce qui se passe dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ? Je suis pas sûr. Prochaine séance publique mardi. Ouais, absolument. Prochaine séance publique mardi sur ma chaîne. Alors attendez, je vais essayer de checker si le site de l'Assemblée nationale a mis à jour l'agenda. Non, il y a une réunion du bureau, ils ont dû décider de ça. Non, pas encore. Donc mardi 1er, c'est le discours de politique générale suivi des prises de position des autres groupes qu'on va suivre en direct sur ma chaîne. Et mercredi, ce sera la séance de questions au gouvernement. Mais je ne sais pas à quel moment ils vont discuter de la motion de censure. Il faut qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour, je ne sais pas quand. À mon avis, ils sont en train de le décider. En cas d'hypothétique d'une censure bientôt et avec le délai pour une autre dissolution, quelles options le gouvernement possible ? Alors, il y a un truc que se dit Marine Le Pen, mais elle n'est pas la seule à se le dire, c'est si le gouvernement Barnier échoue, alors c'est Lucie Castex qui sera appelée à gouverner. Sous la coupe des macronistes. Donc ce ne sera plus un gouvernement de droite-extrême droite sous la coupe de l'extrême droite, ce sera un gouvernement de gauche-centre sous la coupe du centre. Et ça, Marine Le Pen, elle le veut pas. Du tout. C'est pour ça que Marine Le Pen n'a pas très très envie de censurer Barnier. À choisir, elle préfère. Macron non plus. Alors Macron non plus, mais Macron n'aura peut-être plus le choix. C'est-à-dire que, c'est, encore une fois, dans l'hypothèse où le gouvernement Barnier ne marche pas, Macron va peut-être être obligé d'accepter à contre-cœur de nommer Lucie Castex et de la mettre sous pression. C'est pour ça que Marine Le Pen ne va pas censurer Barnier. Marine Le Pen, elle ne veut pas d'un gouvernement de gauche, même sous la coupe des macronistes. Peut-on imaginer une censure transpartisane en juin prochain ? Alors, censure transpartisane, probablement pas, puisque le NFP ne va pas se mettre d'accord avec le RN. Le NFP n'a aucune envie de faire ami-ami avec le RN. En revanche, le RN peut prendre la décision de voter une motion de censure déposée par le NFP. Une fois que vous déposez une motion, elle est ouverte au vote de tout le monde. Jusqu'à présent, le RN a voté plusieurs fois, des motions de censure déposées par la gauche. La gauche, elle, n'a jamais voté une motion déposée par l'extrême droite. Tu penses que la gauche qui vote la motion du RN, c'est possible ? Non. Non, je pense pas. J'en ai discuté avec des députés de gauche, etc. Ils m'ont tous dit, mais non, je vais pas voter un truc d'extrême droite. En plus, faut voir ce qu'il y a écrit dans la motion. Encore une fois, c'est une question d'intérêt à agir, c'est-à-dire que la gauche refuse de voter les textes d'extrême droite parce qu'il y a des trucs d'extrême droite écrits dedans et que c'est déposé par l'extrême droite. L'extrême droite, elle, accepte de voter des trucs de gauche. Mais pourquoi elle fait ça, l'extrême droite ? Elle est devenue de gauche d'un seul coup ? Non, pas du tout. L'extrême droite, elle fait ça parce qu'elle en a intérêt. Elle y a intérêt. Marine Le Pen est toujours dans une stratégie de dédiabolisation. Marine Le Pen a intérêt à montrer à la France entière qu'elle, elle joue le jeu. Qu'elle, elle est intelligente. Qu'elle, elle sait dépasser les clivages dans l'intérêt de la France. Qu'elle, elle sait ne pas être sectaire, à la différence de la gauche qui n'est incapable de voter que ce qu'elle dépose elle-même. Etc. Donc Marine Le Pen, ça participe de sa stratégie de voter des trucs de gauche de temps en temps. Alors que la gauche, c'est aucune stratégie de voter des trucs de droite de temps en temps. Hein. Non. Même la réforme des retraites, bah écoutez, on verra ce que dépose le RN comme proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Je vous rappelle qu'une loi d'abrogation, c'est pas juste une phrase, la réforme des retraites est abrogée. C'est pas ça une réforme d'abrogation. C'est une alternative au système de financement proposé par la réforme des retraites. De ce qu'on a compris en l'état actuel des choses, le RN a l'intention de proposer l'abrogation de la réforme des retraites et de financer le surcoût supplémentaire par l'abrogation de l'aide médicale d'État. Évidemment, ils sont pas fous, ça reste de l'extrême droite. Hein. Donc on prend de l'argent aux Noirs et aux Arabes pour le donner aux vieux. bon, voilà, donc la gauche, elle va voir ça, elle va faire « Bah non, en fait, on va pas voter ça, voilà, allez vous faire foutre. » Et en plus, ça suffira pas, oui, en plus, ça suffira pas parce que l'AME, ça représente que dalle. Ne renforce-t-elle pas la théorie d'une politique en forme de cercle où les extrêmes se rencontrent plutôt qu'en forme d'hémicycle où les extrêmes s'opposent le plus ? Non, tu parles de la théorie du fer à cheval. C'est exactement ce que va dire, ce que vont dire les macronistes. Si Marine Le Pen vote une motion de censure du nouveau Front Populaire, qu'est-ce qu'ils vont dire les macronistes sur les plateaux télé ? Qu'est-ce qu'il va dire Emmanuel Macron ? Il va dire, bah regardez, voilà, l'alliance des contraires. L'alliance des contraires. La gauche et l'extrême droite, main dans la main, pour empêcher la droite et le centre de gouverner ce pays. Ah bah bravo la gauche. Super. C'est de la démagogie, ces gens-là n'ont aucune conviction, ils sont prêts à faire des alliances contraires, les extrêmes, etc., etc. Voilà, c'est ça qui va se passer. Je dis ça parce qu'ils l'ont déjà fait. Hein. Je veux dire, c'est déjà arrivé que le RN vote des trucs de gauche et à chaque fois c'était le discours des ministres au banc. Hein. On peut dire la même chose avec Renaissance et le RN. Bien sûr ! Non, c'est vrai, t'as raison. On peut dire la même chose avec Renaissance et le RN, ouais. De toutes les manières, encore une fois, dans une assemblée tripartite, chaque parti reproche aux deux autres partis d'être des alliés objectifs. La gauche se dit « Ah bah voilà, les macronistes et l'extrême droite main dans la main, ça m'étonne pas, ils sont copains-copains de toutes les manières, etc. » Marine Le Pen de son côté qui n'a jamais hésité à dire bah voilà les macronistes et la gauche main dans la main hein, tout ça c'est du wokisme classique shit hein. Les macronistes et l'extrême droite sont vraiment main dans la main, là. Non, pas tout à fait main dans la main, parce qu'ils sont pas en coalition. C'est juste que Marine Le Pen a accepté de ne pas censurer le gouvernement Barnier. Mais ils gouvernent pas ensemble. ça ne veut pas dire que le gouvernement Barnier ne va pas faire des trucs d'extrême droite. Ça, on va voir ça dans le détail, ça va être intéressant. Donc main dans la main. Non, toujours pas. Toujours pas. Ça va voter ensemble des cadeaux au patronat et aux entreprises. J'ai pas l'impression que ce soit la stratégie dans laquelle se dirige Michel Barnier sur le budget. Hein. Je crois que Michel Barnier, il est déjà en pré-rupture avec Macron en expliquant qu'en fait, les cadeaux fiscaux et les baisses d'impôts, ça a vraiment foutu les comptes dans le rouge. Je pense que Michel Barnier, il va nous proposer un budget de rigueur. La rigueur, je vous rappelle que c'est la hausse des impôts et la baisse des dépenses. Je pense que c'est ce qui va se tramer. D'où le fait qu'il y aura peut-être des impôts sur les riches qui vont être votés là dans le budget cet été. Cet hiver, pardon. Ouais, il y aura peut-être des taxations sur les transactions financières, il y aura peut-être une augmentation des taxations sur les successions, même si ça énerve beaucoup LR. Il y aura peut-être une taxation sur le patrimoine, hein. C'est possible qu'il y ait une augmentation de la taxation sur le patrimoine. Qu'est-ce qui énerve beaucoup LR? C'est la taxation du patrimoine, des successions. Ça, ils ont toujours été très opposés à ça. Taxer la classe moyenne comme d'hab. Alors les impôts sur la classe moyenne ont réduit depuis 7 ans. Avec la suppression de la taxe d'habitation, avec la suppression de la redevance télé, etc. C'était une des promesses d'Emmanuel Macron, hein, de baisser l'imposition des classes moyennes. Ça ne veut pas forcément dire que ça s'est transformé en gain de pouvoir d'achat, parce qu'il y a quand même eu des stagnations de salaire avec de l'inflation, donc c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas sur les impôts, ouais. Pas sur la TVA. Non, pas sur la TVA. Alors peut-être que Michel Barnier va nous ressortir un vieux truc de Nicolas Sarkozy qu'il avait voté en 2011, qui était la TVA sociale. C'était une belle arnaque, ça, hein. TVA sociale, le mot est joli. En fait, c'était juste une augmentation de la TVA à 21%, je crois. Premier truc que la gauche arrivée au pouvoir en 2012 a supprimé dans le budget rectificatif, c'était la TVA sociale de Nicolas Sarkozy. C'est tout sauf social du coup. Ah oui. Non, mais l'argument de l'UMP à l'époque, c'était de dire c'est une TVA sociale parce que les gains supplémentaires d'argent vont permettre de financer le système social français. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle TVA sociale. De toute façon, je suis pas neutre, hein, sur cette question, parce que je m'y suis opposé à l'époque. Moi, je faisais partie de ceux qui défendaient que c'était juste une embrouille de vocabulaire pour embrouiller les gens et pour qu'ils aient l'impression que c'était un truc de gauche. Comme si augmenter la TVA, c'était un truc de gauche, quoi. Bon, bien se foutre de la gueule des gens. C'était réduire sur le travail et augmenter sur la consommation. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est vrai que l'argument de la TVA sociale qu'ils apportaient, c'était pas seulement le financement du système social français, c'était aussi que la TVA sociale s'accompagnait d'une baisse des cotisations sur le salaire. Ça a toujours été l'objet de la droite et d'Emmanuel Macron d'ailleurs, de rapprocher le salaire brut du salaire net en diminuant les cotisations. Permettre aux gens d'avoir plus de pouvoir d'achat, travailler plus pour gagner plus, etc. Bref, avoir plus de pouvoir d'achat par son travail et répercuter le manque par des parts de TVA. Voilà. Selon toi, comment vont se dérouler les prochains mois de la vie politique française? Oh, c'est une excellente question. Je me permets de te suggérer de t'abonner à ma chaîne, parce que on n'a pas fini d'en parler dans les mois qui viennent, justement, de cette vie politique française. Je ne sais pas du tout dans quel sens ça va aller, on verra bien. Est-ce qu'ils peuvent taper dans l'épargne des Français, genre le livret A et autres? Bah, je te rappelle que le livret A, ça sert à financer le, entre autres, hein, le logement social. Donc taper dans l'épargne, comme tu dis, ça se fait déjà en fait. Sous la coupe de la Banque publique d'investissement et de la Banque et de la Banque des territoires surtout. Le livret A, ça sert déjà à ça. Donc on verra, alors c'est effectivement les prochaines étapes importantes, les amis, de la vie politique française, c'est 1er octobre, le discours de politique générale de Michel Barnier sur la chaîne Twitch de Jean Mercier. Le 2 octobre, les questions au gouvernement et probablement le vote d'une motion de censure sur la chaîne Twitch de Jean Mercier. Et dans les jours qui suivent, normalement, la présentation du budget en commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est un exercice très important puisqu'on a un ministre des budgets qui va venir devant les députés leur présenter la mouture de son budget. Sur la chaîne aussi, je ne sais pas, ça dépendra de la date. Il n'est pas en audition là tout de suite, le ministre du budget? Ah ouais? Attends, je check. Putain, il rame le site de l'Assemblée nationale.
Et vous-même, respecterez-vous la loi?
Commission des finances.
Et vous-même, respecterez-vous la loi?
Ah si, attends. À l'heure où je vous parle, il y a une audition en commission des finances du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget. Alors est-ce que c'est la présentation du budget? Sans doute, hein. Éric Coquerel, Lance Saint-Martin, Antoine Armand. Intéressant. Tu en tiens quoi de ce nouvel appel de Barnier à Lisnard cette fois? Effectivement, Michel Barnier a téléphoné à David Lisnard, qui est le maire de Cannes, qui est surtout le président de l'Association des maires de France, très influent, David Lisnard. Il lui a téléphoné pour s'excuser des propos qu'ont été tenus par la ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, qui a expliqué que les fortes intempéries et notamment les inondations qu'ont connu la ville de Cannes ces derniers jours sont dus à la bétonisation et à l'expansion urbaine dans l'agglomération cannoise. Dit autrement, Agnès Pannier-Runacher dit que c'est un peu de la faute de David Lisnard et des élus cannois s'il y a des inondations. Si vous aviez moins bétonné votre ville, il y aurait moins d'inondations. Le fait est qu'elle n'a pas tort. Agnès Pannier-Runacher, elle n'a pas tort. C'est effectivement, et on le sait depuis longtemps, les épisodes de crue dans les villes sont dus à la bétonisation, à l'artificialisation des sols, à la progression du tissu urbain. On le sait, ça. Mais ça a quand même beaucoup énervé David Lisnard, qui, évidemment, voilà, tous ses administrés qui disent qu'est-ce qu'elle fait la mairie pendant ce temps-là, etc. David Lisnard qui, en plus, caresse l'espoir d'avoir un avenir politique. Bref, il n'a pas du tout apprécié les propos de la ministre, il l'a fait savoir. Et Michel Barnier, plutôt que de temporiser je sais pas quoi, il a téléphoné à David Lisnard pour s'excuser en disant « Vous inquiétez pas, elle dit n'importe quoi, c'est une conne. » Non, il n'a pas dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle a écologiquement raison, mais politiquement tort. C'est très bien dit. C'est très bien dit. J'espère qu'il a un bon forfait. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi. J'espère qu'il a un bon forfait. Michel Barnier, parce que dis donc, ça fait quoi, deux fois en deux jours que Michel Barnier passe un coup de fil pour s'excuser. Vous vous rendez compte quand même, un premier ministre en personne qui téléphone à des gens pour leur dire je suis désolé. Qu'est-ce qu'il fout Michel Barnier? Mais il se rend compte de à quel point ça sape son autorité. Il passe pour un peintre. Le ministre du SAV, non mais c'est ça. C'est dingue, mais on fait jamais ça. C'est jamais le premier ministre en personne qui téléphone. Michel Barnier, s'il était vraiment en colère, il aurait dû téléphoner à Agnès Pannier-Runacher pour lui passer un savon et lui dire « Maintenant, tu appelles David Lisnard et tu t'excuses. » Et c'est elle qui prend ses responsabilités, qui appelle Lisnard et qui lui dit « Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle, etc. machin, etc. » Mais c'est pas le Premier ministre en personne qui téléphone. Moi, ça me... C'est vraiment un vrai call center. Non, mais c'est ça, c'est... Barnier est pour l'utilisation du 49.3. Alors, que Michel Barnier soit pour ou contre le 49.3 n'a aucune importance dans le fait qu'il va y avoir recours. Par nécessité, pas par plaisir. On n'a jamais recours au 49.3 par plaisir. Hein. Si, de Villepin. Ah bah, je te rappelle ce que ça lui a coûté quand même. Hein. Donc non. T'en penses quoi des ministres qui veulent cumuler leur mandat et leur fonction d'élus locaux? Est-ce que ça se fait souvent? Non, ça se fait pas souvent. Ça se fait pas souvent et pour cause, c'est assez mal vu quand même d'une partie de l'électorat et de l'opinion publique. Et de toutes les manières, c'est irréaliste. On peut pas raisonnablement faire croire qu'on est ministre à plein temps et maire à plein temps. Personne n'y croit à ça. Moi, je pense que des ministres veulent cumuler avec leur mandat d'élus locaux, leur mandat exécutif, hein, j'entends. Je pense qu'ils veulent le faire parce qu'ils se sentent bien. Ils sentent bien que, en fait, le ministère, c'est un strapontin, donc ils ont peut-être pas duré très longtemps dans ce gouvernement Barnier, on va pas se mentir. Donc, ils ont quand même envie de garder un point de chute, ce qui est pas absurde. Mais je pense que. Je pense que c'est pas une bonne idée, mais bon, c'est ma petite opinion qui est pas très intéressante. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a démissionné de son poste de sénateur? Alors, c'est pas un poste sénateur, c'est un mandat. Est-ce qu'il a démissionné de son mandat? Pas encore à ma connaissance. Je crois qu'il a un délai pour ça. Il a quelques semaines pour se mettre en conformité. Pourquoi les hommes politiques sont vieux? Ah bah, c'est pas vrai, ça. Regarde Macron, regarde Attal, regarde Lucie Castet. Bon, c'est sûr, si tu sors Michel Barnier, Jean-Luc Mélenchon, Bruno Retailleau, c'est pas la prime jeunesse. Hein. Mais non, il y en a qui sont plus jeunes. Hein. Regarde Antoine Armand et Laurent Saint-Martin, c'est pas des vieux. Hein. Tout le Sénat, non, c'est faux. C'est faux. Le plus jeune sénateur que j'ai interviewé, il avait 24 ans. Oui, mais c'est des riches. Non, c'est faux. Enfin, va dire ça au sénateur communiste, tu vas voir comment tu vas te faire recevoir. Yann Brossa, il est pas vieux. Fabien Gay non plus. Non, c'est vrai, Fabien Gay, il est pas si vieux que ça. Député, sénateur communiste. La moyenne d'âge au Sénat, alors de mémoire, la moyenne d'âge au Sénat, c'est la même que la moyenne d'âge du pays. À 1 ou 2 ans près. Pour le coup, le Sénat, bah, je le connais bien parce que j'ai eu une émission sur Public Sénat pendant 4 ans quand même. Le Sénat a connu une évolution sociologique ces dernières années. Il y a eu un rajeunissement, il y a eu une féminisation. Alors pas intégrale, pas complète. Mais par rapport au Sénat qu'on a connu les décennies précédentes, ça a changé. Ça a été démontré par... D'ailleurs, je crois que c'est sur le site internet du Sénat que vous avez toutes les statistiques qui montrent justement cette inflexion. J'y crois pas trop. Ah non, mais tu n'as pas de foi à avoir, hein. C'est juste de la donnée scientifique. Là, pour le coup, que t'aies foi dans la donnée scientifique ou pas, ça ne change pas la donnée scientifique. De la moyenne d'âge qui a reculé, de la féminisation, de la diversification aussi. C'est pas complètement... on n'est pas au bout du chemin, mais ça a progressé. Et ouais, sur la moyenne d'âge... Alors, 59 ans et 11 mois pour les sénateurs et 49 ans pour le pays. Alors du coup, ça doit pas être la population générale. Ça doit être soit la population... Non. Soit la population des électeurs, donc tu retires tous les moins de 18 ans. Soit la population active. Je sais plus. Ou alors, je suis en train de confondre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est possible. Mais oui, c'est vrai que le Sénat s'est tombé sous la barre des 60 ans, la moyenne. Peut-être la population des éligibles aussi, le Sénat, c'est minimum 24 ans. Non, ça, c'est plus vrai, ça. Je sens qu'il y avait une proposition de loi pour baisser à 18 ans. Ah si, c'est toujours 24 ans. C'est ça, c'est-à-dire que la proposition de loi n'avait pas abouti. Mais je me souviens que ça avait été débattu. Ça avait été débattu. L'abaissement de l'âge minimum pour devenir sénateur. Et aujourd'hui, c'est toujours 24 ans, ça n'a pas bougé. Putain. Ça s'est perdu. Ça s'est perdu dans les limbes du Sénat et de l'Assemblée. Quelle relouterie. Pourquoi 24 ans et pas 18? Ah non, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est de la merde. Ce serait bien que quelqu'un écrive un livre sur la jeunesse et la politique. C'est vrai que ce serait une drôlement bonne idée que quelqu'un écrive un livre sur les rapports conflictuels entre la jeunesse et la politique. Dans les deux sens, hein, c'est pour personne n'a la primauté du bordel. Ce serait bien que ce livre sorte aujourd'hui, le 25 septembre 2024, disponible en librairie, ou alors vous pouvez le commander en ligne sur le point d'exclamation livre dans le chat. Pour être député, le casier judiciaire est pris en compte. Alors, député, ce n'est pas un métier, c'est un mandat qui est donné par le peuple à l'occasion d'une élection législative. Il n'y a pas de casier judiciaire ou pas de casier judiciaire, ça ne fait pas partie des conditions pour se présenter. En revanche, il est évidemment interdit de se présenter à une élection législative si on est frappé d'une interdiction, d'une peine d'inéligibilité. Je crois qu'on ne peut pas non plus se présenter si on est sous tutelle ou curatelle. Ce qui n'est pas déconnant. Donc voilà. Si vous êtes jugé inéligible par un magistrat, alors vous ne pouvez pas vous présenter aux élections législatives. Oui, mais on peut voter. Alors ça, c'est une autre peine qui peut être prononcée par un juge, c'est la peine de déchéance des droits civiques. Si vous êtes déchu de vos droits civiques, vous n'avez plus le droit de voter. Perdez votre carte électorale, l'inscription sur liste électorale, etc. Perso, je trouve que le casier judiciaire devrait être pris en compte. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est une très mauvaise idée de prendre en compte le casier judiciaire pour exclure des élections des personnes, parce que ça ouvre la porte à une facilité au pouvoir, à l'État, au gouvernement, d'exclure des opposants du jeu politique. C'est exactement ce que fait Vladimir Poutine, coller des procès au cul de ses opposants de manière à ce qu'ils ne puissent jamais se présenter à aucune élection. C'est trop facile. Je suis désolé, c'est trop facile. Et je pense que les premières victimes de ce genre de décision, ce seraient les écologistes. Ceux qui étaient à Sainte-Soline, ceux qui étaient à Notre-Dame-des-Landes, ceux qui étaient au barrage de Sivens, etc. Trop facile. Voilà. Tu leur colles une infraction dans le casier judiciaire, terminé, ils peuvent plus se présenter, ils peuvent plus voter, c'est parfait. Nelson Mandela, ah bah Nelson Mandela, il a fait 27 ans de prison quand même, hein, avant de devenir président de la République. 27 ans. Ça se pose là quand même. Casier judiciaire vierge et une justice réellement indépendante. Mais c'est pas la question de l'indépendance de la justice, je suis pas en train de dire que les juges sont aux ordres du pouvoir. Je le pense pas et c'est pas vrai. Non. Je pense que t'as pas besoin d'avoir la justice à ta main pour trouver une infraction. C'est trop facile. Tout le monde fait des infractions. Non. Il suffit d'avoir le procureur, hein, c'est et puis juste les forces de police. Hein. T'imagines comment ce serait facile pour un ministre de l'Intérieur? Tu dis à un équipage de policiers de dire vous allez suivre cette voiture et puis dès qu'elle dépasse de 5 km/h la limite de vitesse, vous me l'arrêtez sur le côté, vous lui faites une fouille complète, vous trouvez tout ce qui va pas et tout ce qui contrevient à la réglementation, vous m'envoyez ce mec-là en tribunal de police ou en tribunal correctionnel et hop, on lui colle un procès. Terminé. En une après-midi, t'as réglé le problème, t'as un opposant politique en moins. Trop facile. Par contre, ce qu'on peut, c'est donner à un... ce qu'on peut donner au magistrat la possibilité de prononcer une peine d'inéligibilité. C'est justement à ça qu'elle sert, la peine d'inéligibilité. Mais ce que je vous disais ailleurs, ce que je vous disais hier est vrai. La peine d'inéligibilité, elle est peu prononcée aussi parce qu'il n'y a pas énormément d'élus qui se retrouvent au tribunal. Parmi les gens qui commettent des infractions, il y a aussi des fonctionnaires, il y a aussi des entreprises privées, il y a aussi des personnes privées, il y a aussi... Enfin, c'est pas que le maire. Quand tu mets au jour, quand les enquêteurs mettent au jour un scandale de corruption ou un truc comme ça, c'est rarement le maire tout seul. Hein. Des exemples de peines d'inéligibilité. Bah, je me souviens qu'il y avait Patrick Balkany qui avait écopé d'une peine d'inéligibilité en première instance. Mais comme il avait fait appel, l'appel est suspensif, donc ça n'avait pas été appliqué et il avait pu se présenter à une élection. Il y a eu Alain Juppé. Ouais, Alain Juppé, quand il a été condamné dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires de la mairie de Paris. Cahuzac, je sais pas. S'il a écopé d'une peine d'inéligibilité, c'est possible. Donc c'est pas... C'est important que les magistrats puissent effectivement avoir dans leur panel de peine la possibilité de prononcer des inéligibilités, oui. C'est déjà arrivé une inéligibilité pendant que la personne avait un mandat. Est-ce que ça l'annule? Non, non, ça annule pas la peine. Ce que je sais, c'est qu'il est possible pour le gouvernement de déchoir de son mandat un élu local. C'est une décision assez rare, mais ça arrive. C'est une décision, un décret en Conseil des ministres qui prononce la déchéance d'un élu. Mais c'est rare. C'est vraiment rare. Cahuzac, il était inéligible jusqu'à ce qu'il revienne là où il est réapparu. Parce que j'ai vu que Cahuzac était revenu en France et qu'il avait présenté sa candidature à une élection locale. C'était aux législatives qui était candidat, Cahuzac? Qui est Cahuzac? Alors, Cahuzac, si vous n'avez pas connu, Cahuzac est un ancien responsable du Parti Socialiste qui est devenu ministre du Budget dans le premier gouvernement Jean-Marc Ayrault après la victoire de la gauche aux élections de 2012 et l'élection de François Hollande. Jérôme Cahuzac était le ministre du Budget, chargé donc de la lutte contre la fraude fiscale. Et quand il était au pouvoir, c'était au début hein, du mandat en 2013. Le journal Mediapart, enfin le site Mediapart, a révélé que ce ministre possédait un compte en Suisse qui lui permettait de faire de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale, ce qui, pour un ministre du budget, est particulièrement bizarre. S'en est suivi plusieurs mois de cette affaire Cahuzac, où Jérôme Cahuzac a clamé son innocence partout. Sur les plateaux télé, il a clamé son innocence. À l'Assemblée nationale devant les députés et dans le bureau du président de la République en personne, à qui il a juré qu'il n'avait pas de compte en Suisse, que c'était faux, que c'était une cabale, etc., etc. Ça a beaucoup marqué les Français parce qu'il a utilisé des phrases comme je vous le dis, les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. À l'Assemblée, il a dit je n'ai pas eu, je n'aurai jamais de compte en Suisse, etc., etc. Et au bout de 4 mois d'affaires, suite à des révélations complémentaires de Mediapart, Jérôme Cahuzac a finalement admis qu'il avait bel et bien un compte en Suisse, qu'il avait triché les impôts et que donc il quittait le ministère, machin. Ça a été un tremblement de terre dans la classe politique, cette affaire Cahuzac, à tel point que ça a donné naissance à une loi qui a été votée dans les mois qui ont suivi hein, l'affaire Cahuzac, pour que plus jamais ça n'existe en France ce genre de délire. C'est la loi pour la transparence de la vie publique. La loi pour la transparence de la vie publique qui a donné naissance à une nouvelle institution en France, une institution indépendante du gouvernement, qui s'appelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, qui était présidée jusqu'à hier par Didier Migaud. Et cette institution, la HATVP, est chargée de veiller au respect, des règles de transparence des élus, des ministres, des parlementaires, qui ont donc l'obligation de transmettre désormais des documents pour faire état de leur patrimoine avant et après leur mission. Donc la France a fait un bond en avant en matière de transparence dans la vie publique grâce ou à cause de Jérôme Cahuzac. Est-ce que c'est gênant que le président de la HATVP devienne ministre? Non. Il va juste quitter son poste à la tête de la HATVP, c'est tout. Oh, c'est pas gênant. Donc voilà, donc non, non, ça a été un vrai progrès, hein. Ça a été un vrai progrès. C'est pas encore parfait, mais au moins ça va de l'avant. Et c'est grâce à l'affaire Cahuzac que du coup on a pu par la suite avoir d'autres affaires qu'on a apprises parce que les ministres et les députés sont obligés de faire des déclarations. Il y avait par exemple Jean-Paul Delevoye qui était le haut commissaire aux retraites de Nicolas Sarko de Emmanuel Macron, pardon, qui est devenu ministre chargé de la réforme des retraites et qui avait oublié de communiquer un certain nombre de revenus qu'il avait parce qu'en fait il donnait des cours dans un institut à la con. Et il gagnait de l'argent. Et il avait juste oublié de dire à la HATVP qu'il gagnait de l'argent là. Du coup, hop là, il avait quitté le gouvernement. Il y avait une autre ministre dont j'ai oublié le nom qui avait fait une déclaration de patrimoine à la HATVP en disant voilà ce que je possède. Elle avait un appartement, je crois qu'elle avait plusieurs appartements, etc. Machin, bon, très bien. Sauf que la valeur qu'elle avait déclarée était très 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 faible. Et donc la HATVP a dit mais c'est pas ça votre patrimoine en fait. Vous avez beaucoup plus d'argent que ça en fait, enfin en valeur. Sauf que je crois qu'elle avait sous-estimé la valeur immobilière de ses biens de manière à payer moins d'impôts. Donc non seulement elle a été virée du gouvernement, mais en plus de ça, elle a dû avoir, je pense, un redressement fiscal salé. Donc voilà, la HATVP joue son rôle et c'est bien, et c'est un minimum et c'est chouette. Maintenant, si vous voulez être ministre, il faut que vous passiez sous les fourches codines de la HATVP qui check votre situation fiscale, votre situation administrative, votre situation patrimoniale. Et si la HATVP détecte qu'il y a des trucs qui puent dans votre déclaration, elle prévient le Premier ministre en disant « Celui-là, tu le nommes pas ministre. » C'était qui la phobie administrative ? La phobie administrative, c'était pas Cahuzac, c'était un autre. C'était qui déjà ? C'était un député ? Thomas Thévenoud. Thomas Thévenoud. C'est ça, Thomas Thévenoud, je me souviens. Et alors lui, il avait pareil des arriérés fiscaux. Il avait des arriérés fiscaux et il s'était justifié parce qu'il est, donc il n'avait pas fait des déclarations d'impôts en gros. Il est, voilà. Et il s'était justifié en disant qu'il avait une phobie administrative. Ce qui, pour un personnage politique, est absolument ridicule. Ça avait fait hurler de rire les Français, enfin, qui avaient rigolé jaune quand même, en disant qu'est-ce que c'est que ce tocard ? C'est quoi cette histoire de phobie administrative quand t'es un responsable politique ? T'as pas... Non, en fait, non. Je peux comprendre. Ah, mais moi aussi, je peux comprendre. Mais quand t'es un responsable politique, non. Non, ça, c'est pas compréhensible, c'est pas possible. C'est un chirurgien qui a peur du sang, ouais, c'est ça. Est-ce que la transparence ne devrait pas être plus avancée, par exemple, toutes les déclarations disponibles en ligne comme aux États-Unis ? Ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Il y a une question de respect de la vie privée aussi. La transparence jusqu'où ? Je suis pas sûr que ce soit souhaitable d'aller à ce niveau-là. Par contre, les déclarations de patrimoine des ministres sont consultables en préfecture. Donc, c'est une manière de rendre public, mais pas complètement. Les journalistes, vous et moi, on a le droit d'aller consulter sur place les déclarations de patrimoine des ministres. Je remarque quand même que Rachida Dati est mise en examen depuis 2021 pour corruption et trafic d'influence, mais qu'elle est aussi ministre. C'est comme si elle cachait quelque chose, genre des influences, qui lui permettent de ne pas finir en taule ou de rester dans le paysage. Non, ça c'est de la théorie du complot. La ministre est mise en examen, elle est présumée innocente, et l'affaire suit son cours. Je crois qu'elle va être entendue bientôt. Les députés doivent également faire une déclaration de patrimoine, mais est-ce qu'elle est également consultable ? Oui, je crois que la déclaration de patrimoine des députés est consultable en préfecture. Non, sur le site de la HATVP. Pour les députés. Ah, mais c'est vrai, on l'avait vu ça ensemble la dernière fois. On est sur le site de la HATVP. Recherché par zone géographique, recherche avancée. J'en sais rien, moi. Député. Ministre. Agressive ouvert, Charmant Antoine, Gabriel Attal, Averrouze, Barnier Michel. Tiens, Barnier Michel. Déclaration d'intérêt en cours. Ah merde. Alors, c'est pas fini. Jean-Noël Buffet, Escarrier, Cazenave, D'Aragon, Nicolas. Nathalie Delatte, la ministre de l'Éducation nationale. Oh. Alors. Ah, c'est ça, on n'a pas accès à son employeur. On sait juste qu'elle a eu un emploi. De dégustation d'échantillons de vin Cali Bordeaux, ODG, Bordeaux, Bordeaux supérieur. Et que pour cette activité de dégustation, elle a touché 360 balles en 2015. Félicitations. Très bien, très bien. Alors, ça, c'est tous les trucs pour lesquels elle a bossé à Bordeaux qui lui ont rapporté zéro. Pas d'argent. D'ailleurs, membre du conseil de surveillance du Grand Port de Bordeaux, c'est bénévole. C'est zéro, c'est Walou. Collège Édouard Vaillant, zéro. Elle était membre du conseil du collège. Putain, faut déclarer ça. Lycée des métiers, elle était membre du conseil du lycée, 0 euros. Maison d'Aquitaine, membre du conseil d'administration, 0 euros. Comité régional de la politique de la ville, conseil régional, conseil départemental, commission d'appel d'offres, ta, 0, 0, 0. Donc ça, c'est tous les trucs qu'elle a fait, mais qui l'ont rapporté 0. Mais elle est quand même obligée de le déclarer. Moi, je vais mettre streamer sur Twitch. 0. Non, c'est pas vrai. Elle a une société civile immobilière au capital de 1525 euros qui lui a rapporté 0. Bah dis donc, c'est nul. Elle a une société forestière Habitat et Humanisme au capital de 1776 euros qui lui a rapporté 0. Activité professionnelle, machin. Ah, voilà. Elle a été adjointe au maire de Bordeaux. Et donc, elle a touché ses gratifications qui lui ont rapporté 30 000 euros net sur l'année 2015. Bon, bah ça... C'est juste sa rémunération en tant qu'adjointe, c'est normal. Pourquoi vous dites le foutage de gueule ? Non, non, mais attendez, tout ce que je vous montre là, c'est normal. Hein. Y a rien d'illégal, y a rien d'immoral, y a rien de tout ça. Quand tu es adjoint au maire, quand tu es conseiller municipal, etc., tu sièges dans plein de trucs. Tout ce que vous voyez là, c'est normal pour un élu. Peut-être parmi vous qui ne sont pas très habitués à la politique, mais tout ça, c'est normal. Hein. Quand tu es adjoint au maire, de siéger dans tout ce genre de trucs, par exemple, tu as l'obligation de siéger dans les conseils de collège, dans les conseils de lycée. C'est obligatoire. Les SCI qui rapportent 0 euros, c'est pas du foutage de gueule. Parce que si la société civile immobilière possède l'appartement dans lequel tu habites toi-même, c'est normal que ça rapporte 0 euros parce que tu ne payes pas le loyer à toi-même. Pardon, j'aurais dû préciser à chaque fois, parce que moi, pour moi, c'est normal, mais peut-être que pour vous, dans le chat, ce n'est pas. J'aurais dû le préciser en le lisant. Une SCI qui rapporte 0 euros, c'est normal. Ce n'est pas un appartement qui est en location, c'est juste l'appart dans lequel tu vis. Pas de dividendes, pas de revenus. Ouais, c'est ça, elle a gagné ni dividendes, ni revenus, de rien. C'est juste une SCI, bah, elle vit dans son appart, quoi, c'est tout. Et ça, pareil, 30 000 euros net pour une adjointe au maire de Bordeaux, moi ça me choque pas du tout. C'est juste la gratification normale d'un adjoint au maire de grande ville comme Bordeaux. Conseiller métropolitain de Bordeaux, 12 000. Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, 0. Je parle de l'année 2015. Visiblement, c'est à partir de 2015 qu'elle a fait le switch pour passer au conseil régional. Ah oui, c'est 2015 les élections régionales, je suis con. Elle a été élue au conseil régional. Conseil municipal de Bordeaux, 4 000 euros. Sénatrice, le plus gros qu'elle ait touché, c'est 70 000 euros. M'étonne pas. Donc effectivement, en 2017, elle a quitté la mairie de Bordeaux pour devenir sénatrice. Elle est restée conseillère métropolitaine de Bordeaux. Et elle est devenue... Non, elle a arrêté aussi d'être conseillère municipale. D'être conseillère régionale, pardon. Elle est restée conseillère municipale de Bordeaux. Là, ce que vous voyez, c'est normal. Tout ça, c'est public, c'est officiel, il n'y a aucun problème. C'est la rémunération normale avec les règles de cumul de mandat qui existent, etc. En 2019, plus de 80 000 euros de salaire. Absolument. Alors, c'est pas du salaire, c'est de l'indemnité, mais c'est une indemnité de sénatrice. Sénateur, c'est 70 000 balles par an, ça m'étonne pas. Et ça, c'est les collaborateurs parlementaires. Voilà. Elle déclare qui sont ses collaborateurs, c'est obligatoire. Toutes ces fonctions en 35 heures chacune, évidemment. Non, ce ne sont pas des fonctions, ce sont des mandats. Tu confonds fonction et mandat. Comment l'indemnité peut baisser autant d'une année sur l'autre ? Ça, ça peut être parce qu'elle a quitté une délégation, par exemple. Quand t'es conseiller municipal et t'as une délégation particulière, tu touches une indemnité supplémentaire. Mais si tu quittes toutes tes délégations, tu retombes à l'indemnité de base du conseiller municipal. Faut pas comparer la vie publique avec un contrat de travail, ça n'a rien à voir. Oui, effectivement, c'est différent. Il y a le fait d'avoir une fonction, le fait d'avoir un mandat, le fait d'avoir une fonction publique, voilà, je cherchais. Le fait d'être dans l'armée, le fait d'être enseignant, le fait d'être... tout ça, ça crée des régimes et des statuts différents qui répondent à des règles différentes. Et on ne peut pas comparer un contrat de travail d'un employé ou d'un salarié dans une entreprise avec un mandat d'élu dans une collectivité locale ou dans un parlement. C'est pas comparable. Il n'y a pas les mêmes règles, il n'y a pas les mêmes... etc. Est-ce que tu es imposable quand tu as une indemnité et non un salaire ? Oui, absolument, les indemnités d'élus sont soumises à l'impôt sur le revenu. Je ne comprends pas c'est quoi l'intérêt d'avoir un appartement et de dire c'est une SCI. La société civile immobilière, c'est le véhicule, un des véhicules les plus communs dans l'acquisition, dans l'accès à la propriété, dans l'acquisition d'un bien immobilier. Voilà, c'est tout. Quand tu achètes un appartement, ton notaire, ton agence immobilière, etc. te disent tu as intérêt à créer une SCI. C'est plus intéressant administrativement, c'est plus intéressant fiscalement. Surtout si tu veux le faire à plusieurs, si tu achètes avec ton mari par exemple ou avec ton épouse. Pour la transmission aux enfants aussi, ouais, pour la transmission aux enfants. Enfin, pour un milliard de raisons, la SCI c'est le véhicule idéal de l'immobilier. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que sur le site internet de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, vous avez désormais les déclarations de patrimoine et d'activité et de conflits d'intérêts des membres du gouvernement et des députés et sénateurs. Qui sont librement consultables. Il y a même les maires. Ah ouais, conseillers municipaux, j'ai vu, ouais. Conseillers municipaux, c'est ouf. On est d'accord qu'il n'est plus rien, Jean-Luc Mélenchon, maintenant. Il est pas conseiller municipal, il est pas conseiller départemental, régional. Il est pas député européen, il est pas non. Pas un seul au SMIC. C'est faux. Il y a un député qui s'appelle François Ruffin qui est au SMIC. Officiellement, il n'est pas au SMIC, il gagne des sous, mais il les reverse ensuite. Oui. François Ruffin, quand il a été élu en 2017, a déclaré que il allait s'imposer, enfin, il allait reverser la majeure partie de son indemnité à des associations et qu'il n'allait garder qu'un SMIC. Il voulait rester au SMIC en tant que député. Donc, il ne touchait que l'équivalent d'un SMIC net chaque mois et le reste de l'argent partait vers des associations. Par ailleurs, François Ruffin, il a jamais fait mystère du fait que il a quand même des productions dont il est auteur qui lui rapportent des droits d'auteur et des droits d'exploitation. C'est notamment le film Merci Patron pour lequel il a remporté un César et les livres qu'il écrit qui lui rapportent un peu de sous-sous. Et ça, c'est des revenus complémentaires, c'est pas les revenus en tant que député. C'est très moral de sa part. Oui, après, bon, c'est. On peut avoir une discussion là-dessus si vous voulez, hein, mais moi je trouve ça un peu démago. De dire, à la différence de tous mes collègues, moi je suis vraiment représentatif des Français parce que regardez, je coupe mon salaire pour me mettre à leur niveau. Oui. La gauche caviar, non, ça n'a rien à voir. Avec la gauche caviar. Ouais, c'est une posture. Le roleplay de pauvre. Ouais. Bah, ça a fait grincer des dents. C'est comme quand des députés de gauche s'étaient déguisés en femmes de ménage pour apporter leur soutien aux femmes de chambre, avec à l'époque Rachel Keke qui était meneuse de la grève, etc. Il y avait quand même pas mal de commentateurs qui avaient dit c'est ridicule, ces députés de gauche qui ont besoin de se déguiser pour faire pauvre. Le cosplay, c'est pas ouf. Donc ça arrive souvent que les députés et que les responsables politiques de manière générale soient épinglés comme ça par une partie de l'opinion publique pour ce type de move. Qui peuvent apparaître comme un petit peu surfait, suranné. N'y a pas besoin d'être concerné pour apporter son soutien. Ah non, mais ça c'est l'histoire de la gauche, hein. Ça fait 2 siècles que la gauche, elle est portée par des hommes et des femmes qui n'ont pas du tout, qui ne partagent pas la condition ouvrière, mais qui défendent la classe ouvrière. Enfin, Robespierre, ça a jamais été un pauvre. Hein. Jean Jaurès, ça a jamais été un pauvre. Aristide Briand, ça a jamais été un pauvre. Léon Blum, ça a jamais été un pauvre. François Mitterrand, ça a jamais été un pauvre. Jean-Luc Mélenchon, ça a jamais été un pauvre. Bon. Pas grave, hein. Karl Marx n'a jamais été un pauvre. Et Engels, je vous en parle même pas, il était directeur d'usine, le mec. Quand même, ça se pose là. Trotsky, pareil, donc bon, c'est pas grave, hein, c'est. Marx aussi? Non mais Karl Marx, il était historien, il était journaliste, il était économiste, il publiait des œuvres. Non, peut-être qu'il avait la vie de bohème des écrivains ratés, oui, c'est possible. Effectivement, peut-être qu'il galérait. Che Guevara, il était médecin, ouais. Médecin, fils de médecin. Marx avait un hôtel particulier à Paris. Ah bon? Bon, ça je sais pas, mais peut-être qu'il a gagné l'argent plus tard dans sa vie, Marx aussi. C'est possible que je sais pas, je connais pas très bien la biographie de Marx, hein. Il a peut-être pendant 30 ans galéré et puis au bout d'un moment il avait assez de patrimoine pour s'acheter une baraque, hein, c'est possible. Léon Blum n'a jamais été propriétaire. Ouais, c'est vrai, Léon Blum il a toujours été locataire. Marx, il a toujours été fils de bourgeois à la Paz. Oui, mais après, tu sais, fils de bourgeois, ça veut pas tout dire. Hein. Si tu peux, t'as probablement des fils de bourgeois qui sont en rupture avec leur famille et qui galèrent. Hein. L'histoire de la littérature est quand même remplie de poètes incompris qui ont quitté, qui ont largué les amarres avec leur famille, qui ont vécu dans une grande pauvreté alors qu'ils venaient de la bourgeoisie. Hein. Le fameux fils de bourgeois prolo. Prolo rarement, mais artiste raté souvent, oui. Non, je ne reprendrai pas l'affaire familiale. Je vais écrire des poèmes et vivre de mes poèmes. Et c'est ainsi qu'il vécut 30 ans dans un appartement minuscule, en mangeant une seule fois par jour. Devient dictateur nazi. Là, j'ai pas réussi à rentrer aux Beaux-Arts de Vienne. Je vais envahir la Pologne. Un peu comme les streamers aujourd'hui. Absolument. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, notamment grâce à Twitch Prime, qui vous permet de vous abonner gratuitement. Ou alors, si vous n'avez pas Twitch Prime, c'est pas grave, vous pouvez dégainer votre meilleure carte bleue et m'apporter un soutien mensuel, c'est cool. Moi qui vis dans cet appartement avec du simple vitrage où je me les pèle. Vous abonnez pas, il envahit la Pologne. Merci à vous. Merci à vous. Bon, les copains, je vais m'arrêter parce que moi, je vais devoir aller au lancement de mon livre. Donc, pour ceux qui s'intéressent, ceux qui habitent à Paris ou en Île-de-France, rendez-vous à 19h30 au 51 rue de Bagnolet. Pas une bibliothèque, une librairie qui s'appelle Le Maire, le Moqueur. Et nous faisons ce soir le lancement officiel de mon livre. Viendez, ça va être chouette. Et pour les autres, n'hésitez pas à l'acheter chez votre libraire ou sur les internets. Point d'exclamation livre dans le chat. Je vous fais des bisous. On se retrouve pas demain, parce que demain je suis à Strasbourg aux Bibliothèques Idéales pour parler de mon livre. Je vous retrouve vendredi après-midi pour un stream. Bisous, merci d'avoir été là. À tout bientôt. Ciao, ciao.